Vivez la différence.
AnnoDakar.com.
Les grandes voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bande mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu, tu grondes sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'aimer. Femme nue, femme obscure, huile que ne ride et nul souffle. Huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délice des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.
Nous sommes aujourd'hui face à une question délicate. Comment présenter un homme comme Léopold Sédar Senghor sans user de superlatifs ronflants? On va donc se limiter à mentionner qu'il est né le 9 octobre 1906 à Joual au Sénégal et mort de poète, écrivain, homme politique français puis sénégalais, premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. Il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. C'est à Paris, alors qu'il était étudiant, qu'il créa en compagnie du Martiniquais Aimé Césaire et du Guyanais Léon Contant Damas la revue contestataire L'étudiant noir en 1934. C'est dans ces pages qu'il exprimera pour la première fois sa conception de la négritude, notion introduite par Aimé Césaire dans un texte intitulé « Négrerie ». Définition d'Aimé Césaire, la négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Quant à lui, Senghor affirme, la négritude c'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir telles qu'elles s'expriment dans la vie, les institutions et les œuvres des noirs. Je dis que c'est là une réalité, un nœud de réalité. Pour les écoliers africains, Léopold Sédar Senghor est d'abord l'auteur du recueil de contes La belle histoire de Luc le Lièvre, écrite en collaboration avec le romancier Abdoulaye Chadji et publié pour la première fois en 1953. Nous avons reçu de la Sonothèque de Radio France Internationale le vinyle des archives sonores de la littérature noire consacré à Léopold Sédar Senghor. Cet album a été réalisé avec la collaboration artistique de la radiodiffusion du Sénégal et du Théâtre National Daniel Sorano de Dakar en 1976. Léopold Sédar Senghor répond aux questions d'Edouard Monique. Les poèmes sont servis par la voix de Maurice Sonar Senghor.
Vous avez vécu et vous vivez dans un pays où les lieux s'appellent Sangomar, Sangalkam, où les lieux s'appellent Joal, Dilor, Mbissel. C'est un cadeau natal. Et ces mots, comme les langues de votre pays, vous les avez inspectés, vous les avez habités, vous les avez transformés pour vous-même. Et pourtant, au moment de parler au plus vaste monde, de lui donner votre poème, c'est en français que vous le faites.
Je suis fils de l'ethnie, c'est-à-dire de la géographie, de l'histoire. Je suis également fille de la culture. Je suis né, et pendant 7 ans, je n'ai parlé que le CRR. Et après, l'histoire du Sénégal a voulu que j'apprenne en même temps le Wolof et le français. Et j'ai retenu du français, si vous voulez, les qualités du CRR. Le CRR est peut-être la langue la plus sonore du Sénégal, il n'y a pas de muet. Tenez par exemple ce poème populaire. Dan Kim, Ngalnem Feka, Lamla Michala Ayoube. C'est-à-dire, je ne dormirai point, sur la place je verrai le tam-tam de moi éparé d'un collier blanc. Et ce qui me plaît dans le français, c'est la clarté des voyelles, n'est-ce pas, qui sont franchement des voyelles ouvertes, des voyelles fermées, mais pas de voyelles intermédiaires. C'est aussi l'harmonie du français et la richesse des phonèmes, surtout dans la phrase parlée. Ayant été placé dans le français, ayant eu l'instrument du français dans les mains, de par la grâce de Dieu, je m'exprime en français. M'exprimer en CRR, ça aurait été artificiel. Je comprends le CRR actuellement, mais je le parle mal.
De jeunesse. Mon ami l'étranger disait la fraîcheur des prés en septembre et les roses de tinche braie qui s'irisent dans la candeur du matin. Je rêvais d'une jeune fille au cœur odorant et quand elle se fâchait ou délirait, ses yeux jetaient des éclairs de soufre, comme toi, n'est-ce pas? Comme la nuit d'hivernage.
Arrivons au rythme. Le rythme dans l'œuvre de Senghor.
Mais je pense d'abord que l'œuvre d'art négro-africaine, c'est essentiellement 2 choses. C'est une image ou un ensemble d'images rythmées. Et d'abord l'image. L'œuvre d'art ne serait pas œuvre d'art. L'image symbolique ne serait pas poésie si cette image n'était pas rythmée. Et le rythme, c'est la marque essentielle de l'art nègre. Mais le rythme négro-africain, ce n'est pas ce qu'en croient les vieilles duchesses ou les précieuses de Paris. Le rythme négro-africain, ce n'est pas la monotonie. Ce qui est monotone, c'est le rythme européen. C'est 2 et 2 font 4. C'est ce que voulait exprimer notre ami Césaire quand il disait 2 et 2 font 5. Le rythme négro-africain, ce sont des parallélismes asymétriques. Par exemple, voici un poème. Yagana, 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 Degele, Yagana, Daoren, Sogagno, Degele, Webisimlai, Diamandor, Andidor, Degele, Laulakiat, Laulakel, Laulabet, Degele, Laulala, Menudom, Adama, Degele, Kulukum, Ludigen, Sukenyor, Degele, Wajangandao, Takulen, Farunda, Degele, Farunda, Tiameyal, Diogoma, Degele, Wigewelo, Rakilsa, Ndareli, Degele, Aibanyabon, Banyabon, Banyabon, Degele, etc. Si je vous transcris ce poème en formule mathématique, car c'est comme cela que j'ai prouvé qu'il y avait une poésie noire, c'est que tout poème négro-africain peut être exprimé en formule mathématique. Vous verriez le rythme de base qui est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire c'est un tétramètre, chaque mètre étant formé de 3 syllabes. Mais c'est le rythme de base, ce n'est pas le rythme du récitant. Car dans le rythme du récitant, vous avez 4, 4, 4, 4, mais avec des silences de telle sorte qu'en réalité, vous pouvez avoir 2, 3, 0, 4. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un maître qui ait plus de 4 syllabes. Donc, ce sont des parallélismes asymétriques, c'est l'unité dans la diversité, c'est le rythme même de la vie. C'est une attente et la surprise dans l'attente. Tandis que dans le rythme albo-européen, vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, prenez un vers classique, c'est 12 syllabes, chaque vers a 12 syllabes. Mais dans le vers négro-africain, chaque vers, dans le poème que je vous ai récité, n'a pas 12 syllabes. Car ce qui fait que le vers est vers, c'est qu'il y a 4 accents d'intensité, n'est-ce pas, dans chaque vers et non pas 12 syllabes.
C'est le temps de partir, que je n'enfonce plus avant mes racines de ficus dans cette terre grasse et molle. J'entends le bruit picotant des termites qui vident mes jambes de leur jeunesse. C'est le temps de partir, d'affronter l'angoisse des gares, le vent courbe qui rase les trottoirs dans les gares de province ouvertes, l'angoisse des départs sans main chaude dans la main. J'ai soif d'espace et d'eau nouvelle et de boire à l'urne d'un visage nouveau dans le soleil. Et ne m'écarte pas les chambres d'hôtel ni la solitude retentissante des grandes cités.
Vous avez parlé de la géographie, mais vous avez parlé aussi de l'histoire. Et là se vérifie toute votre vie, les études d'abord, la guerre, la politique. Quelle a été l'importance de la poésie, de tous ces livres que vous avez publiés en même temps que vous étiez Léopold Sédar Senghor étudiant, Léopold Sédar Senghor prisonnier, Léopold Sédar Senghor député, Léopold Sédar Senghor homme politique et président de la République?
Si je regarde ma vie, j'ai voulu donner toujours dans ma vie la priorité à la négritude. C'est-à-dire non seulement à la défense et illustration de la négritude, mais à la vie de la négritude. J'ai toujours voulu vivre en nègre. Ma poésie est une poésie, on me l'a reproché, une poésie publique et collective. Et je pense que c'est un compliment. J'ai l'impression que je fais ma poésie avec les autres. J'ai l'air de la masse, nous nous critiquions les uns les autres, nous étions très sévères pour les uns et les autres, nous nous influencions les uns et les autres tout en restant nous-mêmes. Par exemple, on a l'habitude d'opposer ma poésie à la poésie de Césaire, à la poésie de Césaire, à la mienne ou à celle de Damas. D'accord, nos poésies sont différentes et pourtant nous avons vécu en même temps ce climat poétique et nous nous sommes aidés les uns les autres, nous avons renforcé notre négritude. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours très fraternel aux autres poètes. Et je commence par les poètes sénégalais que je veux aider. Donc, j'ai besoin des autres poètes pour vivre. Et sans doute, apportais-je quelque chose aussi, aidais-je un peu les autres poètes à vivre leur poésie, à vivre leur négritude, à vivre leur royaume d'enfance en le prolongeant.
Me voici dans le gouffre du palais sonore, dans les moiteurs, les migraines. Comme a dit l'or jadis, ma mère saignait mes angoisses de feuilles de manioc, les saignait. À Joal, comme autrefois, il y a cette souffrance à respirer qui colle visqueuse à la passion, cette fièvre aux entrailles le soir, à l'heure des peurs primordiales.
On revient à ce royaume d'enfance. Vous écrivez entre la peur de la mort et l'épouvante de vivre. Je vais plus loin. Le soleil plonge dans l'angoisse. Je vais plus loin, vers la clarté rouge du ciel, la mer de la mort. Je vais plus loin. Le travail, la débauche ou le suicide. Jamais Léopold Sédar Senghor n'a été aussi grave. Jamais Léopold Sédar Senghor ne nous avait entretenu de mort.
Mais pourtant, la mort a parcouru toute mon œuvre. Mais c'était sans doute une mort vue de loin. Tandis que maintenant, la mort approche. Vous savez que c'est le grand problème. Et je tâche, si vous voulez, de trouver une solution à la mort, un remède à la mort, une parade contre la mort. La parade la plus naturelle, c'est de se marier, parce qu'on vit à deux, on double sa vie, et d'avoir des enfants qui vous prolongent. Mais il est évident que ce n'est pas suffisant. Il faut attaquer la mort sur son terrain, sur le terrain de l'existence. Et le seul moyen d'exister et de prévaloir contre la mort, c'est d'exister non seulement dans le corps de ses enfants, mais surtout dans l'esprit des autres, dans l'esprit des générations suivantes. On ne peut exister que par la poésie. Je pense que la plus grande existence que l'on puisse exister, c'est d'exister dans la mémoire des hommes. C'est d'être pour les hommes une nouvelle vie, une nouvelle source de joie et d'enchantement. Et c'est pourquoi seule la poésie peut nous prémunir contre la mort. Seule la poésie, tant qu'il y aura des hommes, et c'est la raison pour laquelle il est très important de lutter contre la guerre, de lutter contre la destruction de l'humanité. C'est pourquoi vous me voyez actuellement si angoissé à l'idée de nouvelles guerres en Afrique.
Je ne sais en quel temps c'était. Je confonds toujours l'enfance et l'Éden, comme je mêle la mort et la vie. Un pont de douceur les relie. Or, je revenais de Fa'oï, m'étant abreuvé à la tombe solennelle, comme les lamentins s'abreuvent à la fontaine de Simal. Or, je revenais de Fa'oï, et l'horreur était au zénith. Et c'était l'heure où l'on voit les esprits quand la lumière est transparente. Et il fallait s'écarter des sentiers pour éviter leurs mains fraternelles et mortelles. Puisse mon poème de paix être l'eau calme sur tes pieds et ton visage, et que l'ombre de notre cour soit fraîche à ton cœur, me dit-elle. Ses mains polies me revêtirent d'un pagne de soie et d'estime. Son discours me charma de tous mes délectables, douceur du lait de la minuit. Et son sourire était plus mélodieux que le halam de son djali. L'étoile du matin vint s'asseoir parmi nous, et nous pleurâmes délicieusement. Ma sœur exquise, garde donc ces graines d'or, qu'ils chantent l'éclat sombre de ta gorge. Ils étaient pour ma fiancée belle, et je n'avais pas de fiancée. Mon frère élu, dis-moi ton nom. Il doit résonner haut comme un sorong, rutilé comme le sabre au soleil. Oh, chante seulement ton nom. Mon cœur est un coffret de bois précieux, ma tête un vieux parchemin de djenné. Chante seulement ton lignage, que ma mémoire te réponde. Je ne sais en quel temps c'était. Je confonds toujours présent et passé, comme je mêle la mort et la vie. Un pont de douceur les relie.
On va se quitter une poignée de minutes pour les informations et nous retrouvons les confidences de Léopold Sédar Senghor. À tout à l'heure.
Autour de la question. Les grandes voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
Nous retrouvons Léopold Sédar Senghor et Édouard Monique. Rappelons que ce volume des archives sonores de la littérature noire consacrée à Léopold Sédar Senghor a été réalisé avec la collaboration artistique de la radiodiffusion du Sénégal et du Théâtre national Daniel Sorano de Dakar en 1976. Ce deuxième volet des grandes voix de la littérature africaine revient plus longuement sur le concept de la négritude. En somme, réaffirmer avec force et détermination que l'homme noir a une culture et des valeurs à offrir aux autres humains.
En quoi la négritude, donc, rejoint cette remarque que vous avez faite un jour, la race n'est pas une entité, une substance. Elle est fille de la géographie et de l'histoire.
En effet, nous avons été façonnés, d'après les préhistoriens, depuis 5 500 000 ans. Parce que nous sommes en Afrique depuis 5 500 000 ans, depuis que l'homme émergea de l'animalité, nous sommes peut-être plus que les autres races marquées par la géographie africaine et aussi par la vie communautaire africaine.
À vous écouter, on se dit que l'homme de culture, celui qui accède à la connaissance, a donc un devoir. C'est de fouiller sa race, c'est d'y retrouver sa trace, mais, vous le savez, cela s'écrit, cela s'est écrit, cela s'écrit encore, et demain, la querelle continuera, cette querelle de la négritude. Et à ce propos, vous dites, il y a dans cette querelle, au-delà, plutôt en deçà du mot, un complexe, qu'on a peur de diagnostiquer et de guérir.
Je pense que vous êtes au cœur du problème. Je ferai remarquer qu'il n'y a actuellement que les Noirs qui se renient, qui n'acceptent pas leur civilisation, qui ont peur d'être noirs. Comme vous le savez, les Européens se querellent souvent entre l'Est et l'Ouest. Mais aucun Européen ne s'est jamais élevé contre la civilisation européenne. Quelques Français ne s'élèvent contre la civilisation française, et nous savons maintenant, les partis de gauche sont les premiers à se réclamer non seulement de la nation française, mais de la civilisation française. Il en est ainsi pour les Anglais, il en est ainsi pour les Américains. Je vous renvoie aux admirables pages de Mao Tse-tung sur la civilisation quadrimillénaire de la Chine. Et vous savez quelle est la force de l'arabisme. Parce que vous ne trouverez jamais un État arabe et qui renie l'arabisme, même si anthropologiquement le peuple de cet État n'est pas arabe. Comme vous le savez, il n'y a pas 5% de sang arabe dans le Maghreb. Je constate donc qu'il n'y a que les Noirs pour avoir peur d'être Noirs, pour avoir peur de défendre la culture noire. C'est tout simplement qu'il y a eu pendant 3 siècles et demi la chasse aux Noirs, la déportation de 20 millions de Noirs aux Amériques, l'inoculation de la civilisation albo-européenne dans nos veines et surtout dans notre tête.
Il est là depuis 15 jours, qui tourne en rond, ruminant la nouvelle grande bêtise et le nouvel affront. Son front qui sue de son sacrifice payé en monnaie fausse. Il ne demandait même pas les 50 centimes, pas un centime, seulement son identité d'homme à titre posthume. On lui a donné les vêtements de servitude qu'il imaginait, la robe candide du martyr. Oh naïf, nativement naïf, et la chéchia et les godillots pour ses pieds libres domestiqués. Il se penche Il regarde la cour béante et quatre rangées de fenêtres sous lui. Il se penche et la plaine apocalyptique est labourée de tranchées où pourrissent les morts comme des semences infécondes. Il se penche sur de hauts tumulus de solitude.
Lorsque, dans les années 30, nous avons lancé le mouvement de la négritude au Quartier Latin, toutes les idéologies étaient contre nous. Tous les partis étaient contre nous, qu'ils fussent de droite ou de gauche. Je pense donc que les attaques des nègres contre la négritude, c'est tout simplement une peur intellectuelle et une peur morale. Un manque d'information, un manque de culture, mais aussi un manque de courage. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la négritude, c'est-à-dire la reconnaissance et l'assumation des valeurs noires, que la négritude est plus actuelle, plus nécessaire que jamais. Ou autrement, ce n'était pas la peine de demander l'indépendance, car encore une fois, les Français, les Anglais, les Russes et les Américains, en fait d'assimilation, sont des maîtres.
Un jour, à Lagos, ouvert sur la mer comme l'autre Lagos, pas un fleuve, mais mille fleuves. Pas une lagune, mille lagunes, une seule mer aux quatre distances. Pas des palétuviers, une forêt dans le déluge, sur la vase grouillant des reptiles du troisième jour. Et parmi les oiseaux trompettes, les singes aux cris de cymbales, la levée des odeurs mortelles et d'autres, suaves comme des hautbois. Régnait le jour troisième et la vie était bien.
En somme, le négro-africain, qu'il soit en Afrique ou dans la diaspora, il n'a jamais fini d'exercer au fond de lui sa négritude. Et cet exercice lui est nécessaire non seulement pour sa vie durant, mais pour la continuité de sa vie en d'autres.
C'est dans un pays comme Haïti et dans le sud des États-Unis, c'est qu'au fond, les nègres antillais ou les nègres américains sont plus nègres que nous. Parce que justement, ils ont oublié les formes et ils n'ont retenu que la substance. Ils n'ont retenu que l'imaginaire, l'image symbolique. Ils n'ont retenu que le rythme fait de parallélisme asymétrique. Et au contraire, parce qu'ils ont oublié les formes africaines, parce qu'on leur a coupé leur histoire, ils n'ont retenu de la négritude que la substance et non pas la forme. Ils ont, si vous voulez, condensé leur énergie dans l'image symbolique et dans le rythme. Vous l'aurez remarqué. Mais la musique antillaise ou négro-américaine est souvent beaucoup plus rythmée que la musique négro-africaine. L'imaginaire des poètes antillais ou négro-américains est souvent plus débridé que l'imaginaire des poètes africains, où il y a encore un certain classicisme, c'est-à-dire un certain respect des formes, des rites. Et cela m'a frappé.
Vous avez prononcé plusieurs fois le mot rythme, et il rappelle un autre mot, le rituel. Vous dites « Je vois un triple but au sacrifice ». Participer à la puissance des esprits supérieurs, dont sont les ancêtres, communier avec eux jusqu'en une sorte d'identification. Enfin, être charitable aux ancêtres. Car les morts, tout puissants qu'ils soient, n'ont pas la vie. Et ils ne peuvent se procurer ces nourritures terrestres, et vous mettez la parenthèse, qui font la douceur intense de vivre. La négritude et les rites et le rituel.
Nous pensons en effet que l'être est un vide, l'être est un manque, un creux, et l'être éprouve le besoin pour vivre de remplir ce creux.
La présence dans le monde de ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle encore la diaspora nègre. Quelle est peut-être l'influence du voyage de vous à cette diaspora et du voyage des autres de cette diaspora vers vous?
J'ai souvent dit que le plus grand malheur pour les Noirs avait été la traite des nègres. Je ne cesserai de le rappeler, pendant 3 siècles et demi, 20 millions de nègres ont été déportés aux Amériques et les meilleurs spécialistes disent qu'il y a eu 10 morts pour un nègre exporté. Ça fait 200 millions de morts, le plus grand génocide de l'histoire. Et on ne s'étonne pas qu'aujourd'hui l'Afrique soit le continent le moins peuplé, alors qu'au début de la traite, au XVIe siècle, au XVe, XVIe siècle, il y avait des villes comme Tombouctou qui avaient alors 100 000 habitants. Et les historiens nous disent qu'à ce moment-là, les empires soudanais étaient au niveau des empires des autres continents, sans rappeler quand même que les premières civilisations, les civilisations des vallées du Nil, de l'Euphrate et de l'Indus étaient des civilisations noires. Donc il faut partir de là. La négritude a créé la civilisation. Et je pense qu'actuellement, grâce en partie au malheur de la traite des nègres, grâce à l'existence de la diaspora, je pense que la négritude peut aujourd'hui régénérer le monde.
Quédialam. Son quel di alam sang Yesu ala nemba omoi Sele biso bube de bea biso
Et nous en venons au métissage. Toutes les grandes civilisations sont des civilisations de métissage historique. Dans l'Antiquité, il y a eu la civilisation égyptienne, la civilisation grecque elle-même. Aujourd'hui, les grandes civilisations, comme la civilisation américaine et même la civilisation soviétique, ce sont des civilisations de métissage. Et je pense que c'est par la diaspora, par le métissage, que de nouveau la négritude jouera son rôle dans le monde, un rôle de premier plan dans le domaine culturel.
Vous avez nommé l'amour, et à ce propos, vous faites état d'une pensée tout couleur qui va ainsi, ce que regarde au loin le laboureur quand il se redresse, c'est le village. Ce n'est pas le désir de manger qui est en cause, c'est tout le passé qu'il attire de ce côté.
Ce qui fait la force des nègres en général, c'est qu'ils sont enracinés. Ils sont enracinés dans un continent. Ils sont enracinés dans un pays. Ils sont enracinés dans un groupe. Ils sont enracinés dans une famille. Ils jouent un rôle dans un ensemble. Ils puisent leur force et leur raison d'être dans cet ensemble, et c'est cet ensemble qui, à son tour, fait leur force. Je pense précisément que la faiblesse des nègres actuels, c'est qu'ils sont déracinés, c'est qu'ils ne croient plus à la vie du groupe, c'est qu'ils ont écouté l'appel de l'étranger, de la raison discursive. Et je pense que c'est un des aspects du problème de la négritude, voyez.
Quel a été le moment le plus fort de l'illustration de la négritude dans votre vie de philosophe de la négritude?
Je pense que le moment le plus fort, ça a été le moment où, ayant rencontré Aimé Césaire et Damas, nous nous sommes mis à vivre cette négritude. Je me rappelle Aimé Césaire expliquant La Fontaine en Sorbonne et comparant le fabuliste français au fabuliste négro-africain, naturellement, ce qui lui valut les foudres méprisantes du professeur de la Sorbonne. Je me rappelle que ces années-là, en préparant l'agrégation comme dissertation, je me contentais tout simplement d'écrire des articles sur la négritude et j'avais commencé déjà à vouloir penser par moi-même et pour moi-même, ce qui, paraît-il, amusait beaucoup mon professeur de philosophie, Cresson. Je pense que ce sont ces années ardentes qui ont été les années essentielles de ma vie. Nous étions un petit groupe, une dizaine. Nous nous réunissions, nous discutions et nous avions la conscience d'accoucher d'un monde nouveau et nous avions beaucoup plus de foi en les bienfaits que maintenant où nous avons une certaine œuvre derrière nous. C'était le temps du combat, c'était le temps de la foi et c'était également le temps des premières fleurs et des premières promesses qui sont alors, comme vous le savez, les plus belles.
Et l'Amérique, Léopold Sédar Senghor, et les poètes de la Renaissance noire, County Cullen, Jean Toomer, James Walden Johnson, Langston Hughes.
Non seulement j'ai lu ces poètes, mais encore j'ai traduit leurs poèmes. Donc, l'influence très grande, décisive, qu'a eu la poésie négro-américaine sur moi et sans doute sur Césaire et Damas, ça a été de nous pousser à écrire la grande leçon que les poètes négro-américains nous ont donnée, c'est qu'il fallait penser nègre, sentir nègre et s'exprimer en nègre. Mais d'abord en négro-africain.
C'était le soir, quand la lumière est plus claire et l'air plus doux. L'avant-soir à l'heure du cœur, de ses floraisons en confidence bouche à bouche, et de l'orgue, et du chant, et de l'encens. Sur le balcon maintenant de Vermeil, où l'air est plus limpide, Martin Luther, debout, dit pasteur au pasteur. Mon frère, n'oublie pas de louer le Christ dans sa résurrection, et que son nom soit clair chanté. Et voici qu'en face, dans une maison de passe, de profanation, de perdition, oui, dans le motel Lorraine, ah Lorraine, ah Jeanne la blanche, la bleue, que nos bouches te purifient, pareil à l'encens qui monte. Une maison mauvaise, de matou, de marlou. Se tient debout un homme. À la main, le fusil Remington. James Earl Ray, dans son télescope, regarde le pasteur Martin Luther King, regarde la mort du Christ. Mon frère, n'oublie pas de magnifier ce soir le Christ dans sa résurrection.
Il regarde l'envoyé de Judas, car du pauvre, vous avez fait le Lycaon du pauvre. Il regarde dans sa lunette, ne voit que le cou tendre et noir et beau. Il hait la gorge d'or qui bien module la flûte des anges. La gorge de bronze trombone qui tonne sur Sodome, terrible, et sur Adama.
Martin regarde devant lui la maison en face de lui. Il voit des gratte-ciels de verre, de lumière. Il voit des têtes blondes bouclées, des têtes sombres frisées qui fleurissent des rêves, comme des orchidées mystérieuses. Et les lèvres bleues et les lèvres roses chantent en chœur comme l'orgue accordé. Le blanc regarde, dur et précis comme l'acier. James L. vise et fait mouche. Touche Martin qui s'affaisse en avant comme une fleur odorante qui tombe. Mon frère, chante et claire son nom. Que nos os exultent dans la résurrection.
La négritude, cela a été investir le passé. Cela a été investir le présent. Mais le futur, finalement, la négritude demain.
Je pense que pour préparer le futur, il faut encore une fois résister aux idéologies monter à l'assaut de l'Afrique, car c'est là notre plus grand danger. Il n'est pas question de s'enfermer dans un ghetto noir. Nous en sommes sortis. Nous croyons et nous le disons que l'avenir est au métissage. Ainsi, j'admets, nous admettons, nous recommandons même d'accueillir les apports étrangers. L'essentiel, c'est une fois les apports étrangers admis, même sur le plan politique, une fois admises les idéologies étrangères, le socialisme par exemple, de l'assimiler en essentiel. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut mettre la culture avant la politique. La révolution, encore une fois, c'est de penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et la révolution, c'est de penser les valeurs noires. C'est par là que je conclurai. Je crois qu'il y a une autre question à laquelle il nous faut répondre. C'est une question qui vient des jeunes, plus ou moins sincères, et qui nous disent la négritude, bien sûr, la négritude de Césaire, de Senghor et de Damas, c'était bien du temps de Damas, mais maintenant il faut une autre négritude. Et je leur dis exactement. Nous avons commencé, c'est à vous de continuer. Il nous faut toujours réinventer la négritude, donner au monde une nouvelle forme de la négritude. Mais le fond de la négritude, le style de la négritude est un style éternel, car c'est le style nègre qui est aujourd'hui le style le plus nécessaire au monde, le style qui n'est pas symétrique, le style qui n'est pas monotonie, le style qui n'est pas répétition, le style qui n'est pas soumission, le style qui n'est pas logique. Il faut briser cet ordre ancien, cet ordre mort. On aura toujours besoin, le monde aura toujours besoin des valeurs de la négritude, car le monde devra toujours détruire le mort, réinventer la vie. Et à mon avis, c'est le sens profond de la négritude.
Oh.
il serait fastidieux de dresser la liste des mandats électifs, des fonctions gouvernementales, des distinctions honorifiques et des prix littéraires reçus par Léopold Sédar Senghor de son vivant. Retenons seulement qu'il nous a laissé un livre pour la jeunesse, La belle histoire de Luc Lelièvre, 12 recueils de poésie, 8 essais. Son message universel reste à redécouvrir. Merci à la Sonothèque de Radio France Internationale. Merci à Eva Moschinski pour la réalisation. Demain, une autre grande voix de la négritude, l'immense poète Léon Gontran Damas, cofondateur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. À demain. Mm-hmm.